Bonjour et bienvenue sur ce premier podcast d'Objectif Apiculture. Aujourd'hui, nous allons voir comment débuter l'apiculture. Donc, quelle est la réglementation vis-à-vis de l'emplacement des ruches? Quel est le prix? Combien ça coûte en fait de se lancer dans l'apiculture? Voilà, donc nous allons voir tout ça dans ce podcast. Alors, tout d'abord, la question que beaucoup de personnes se posent, avec combien de ruches on peut commencer? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation ni d'avoir un minimum ni d'avoir un maximum de ruches. Il faut savoir que l'apiculture amateur, donc amateur pur, c'est considéré jusqu'à 50 ruches. Au-delà, on est obligé d'avoir des statuts particuliers et de le déclarer de manière particulière aux impôts. Et au-delà de 250 ruches, on est considéré comme un professionnel de l'apiculture. Il faut se déclarer à des organismes comme la MSA, pardon, etc. Nous, on va rester dans le cadre vraiment de l'apiculteur amateur, c'est-à-dire moins de 50 ruches. Donc, combien de ruches pour s'installer? Alors, on peut débuter avec un nombre de ruches restreint, on peut débuter avec une ruche. Moi, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement, d'expérience, hein, parce que quand on débute avec une ruche, on n'a aucune possibilité de gesticulation. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, par exemple, votre reine venait à mourir, à disparaître dans votre ruche, et que la colonie ne réélève pas toute seule une reine derrière, eh ben, ça va être très difficile de sauver cette colonie si vous n'avez qu'une seule ruche. Alors que si vous en avez deux ou trois, eh ben, vous pouvez gesticuler avec les cadres, vous pouvez mettre un cadre de couvent ouvert dans la ruche dans le but qu'elle réélève une reine. Enfin voilà, il y a des possibilités, on va dire, de réagir à ça. Alors qu'avec une seule ruche, ce n'est pas possible. Donc pour débuter, je vous conseille deux ruches, voire trois. Pour moi, le nombre idéal, si je devais débuter l'apiculture avec ce que je connais aujourd'hui, je débuterais avec trois ruches. Mais déjà, si vous débutez avec deux ruches, c'est bien. Je vous déconseille fortement de débuter avec une seule ruche. Donc voilà concernant le nombre de ruches. Alors, ensuite, concernant la réglementation. Donc, il existe, la réglementation, elle est assez soft, on va dire, en France, parce que il existe simplement deux règles à respecter, donc c'est les règles de distance et les règles de déclaration. Je m'explique. Concernant les distances en apiculture, vous ne pouvez pas mettre vos ruches n'importe où. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre vos ruches trop près d'un bâtiment public ou de la voie publique aussi, d'une école ou quelque chose comme ça. Pareil de votre voisinage, il y a quand même certaines distances à respecter par rapport à votre voisinage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, par rapport à votre voisinage, à partir du moment où vous avez un mur qui fait plus de 2 mètres de haut et de 2 mètres de long, vous êtes en droit de mettre une ruche chez vous, parce que la réglementation vous l'autorise. Alors faites attention, hein, ça peut varier d'un département à l'autre. Là, je vous parle ça de manière générale, mais c'est vrai que la réglementation, elle est vraiment spécifique à un département. Mais imaginons, dans notre cas, et par exemple, moi je vous donne un exemple. J'habite dans un lotissement, et j'ai le droit de mettre des ruches. Pourquoi? Parce que j'ai un mur qui fait plus de 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Voilà, donc je respecte parfaitement les conditions. Par contre, j'ai ma voisine qui est assistante maternelle et qui garde des enfants. Donc évidemment que je ne vais pas mettre des ruches chez moi, même si je suis parfaitement en droit de le faire. Si je veux, dans mon jardin, je mets 50 ruches. Je suis en droit de le faire. Mais je ne le fais pas parce que pour ne pas embêter les voisins. Donc pensez qu'il n'y a pas que l'aspect réglementaire, il y a aussi l'aspect du bon sens. Un voisin allergique, par exemple, mettez pas une ruche chez vous. Parce que même si vous respectez les conditions, une piqûre, ça peut être mortel. Hein, ne l'oubliez pas. Voilà, donc ça, c'est la réglementation concernant les distances. Donc je vous conseille de vous renseigner auprès de votre département. Alors on trouve ça sur Internet. Hein. Vous tapez réglementation distance ruche plus le nom de votre département et vous allez trouver le site. Ça va automatiquement vous ramener sur le site qui correspond à ça. Ensuite, il y a une deuxième obligation, c'est une obligation de déclaration. Vous êtes obligé de déclarer le nombre de ruches que vous avez et l'endroit où se situent ces ruches. Alors, normalement, les déclarations elles se font entre le 1er septembre et le 31 décembre de chaque année. Il y a une exception, c'est que si vous n'avez jamais fait de déclaration et que c'est la première fois que vous avez des ruches, la déclaration, vous pouvez la faire n'importe quand dans l'année. Si, par exemple, vous achetez votre premier essaim au mois de mai, eh ben, vous pouvez faire votre première déclaration au mois de mai. Donc pareil, hein, vous allez sur un moteur de recherche et vous tapez déclarer mes ruches et le premier site qui arrive, C'est un site du gouvernement qui va vous permettre de déclarer le nombre de ruches que vous avez. Et avec cette déclaration de ruches, vous allez pouvoir avoir un NAPI. Donc le NAPI, en fait, c'est le numéro d'apiculteur. Donc le numéro d'apiculteur, il peut être utile, après on en reparlera un petit peu plus tard dans le podcast, pour l'assurance, pour s'assurer, parce qu'il vous demande votre numéro NAPI quand vous vous assurez. Voilà, donc concernant la réglementation, donc les distances et la déclaration qui est obligatoire. Ensuite, se lancer en apiculture, combien ça coûte? Je ne vais pas vous dire le prix exact qu'il faut pour se lancer en apiculture. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ça varie. Ça varie en fonction du matériel que vous achetez. Donc, est-ce que vous achetez du matériel neuf? Est-ce que vous achetez du matériel d'occasion? Est-ce que vous achetez par exemple, des ruches en bois? Est-ce que vous achetez des ruches en plastique? Voilà, il y a énormément de facteurs qui font que ça varie. Et puis, le marché varie aussi d'une année sur l'autre. On l'a vu avec le Covid, ben, les prix ont augmenté. À certains moments, même, ils ont baissé. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement, ça fait réaugmenter les prix. Enfin, voilà. Par contre, ce que je vais faire, je vais vous lister les éléments essentiels qu'il vous faut pour débuter en apiculture. Comme ça, vous pourrez faire une sorte de checklist en notant tous ces éléments et en face, vous noterez les prix que vous trouvez soit sur Internet ou soit auprès d'apiculteurs, hein, parce qu'il y a des anciens apiculteurs qui des fois se débarrassent de matériel et ça peut être assez intéressant, question prix. Et voilà, comme ça, vous aurez une idée de combien ça va vous coûter de vous lancer dans l'apiculture. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter? Eh bien, la première chose, ça vous paraît très évident, mais il faut y penser, c'est la ruche. Alors, quand je parle de ruche, qu'est-ce qu'une ruche? Une ruche, c'est constitué d'un plancher. Donc, le plancher, bah, c'est là où il y a le plancher d'envol, hein, là où les abeilles décollent, atterrissent dans la ruche. Dessus, on va mettre ce qu'on appelle un corps de ruche ou une caisse, ça dépend, c'est la même chose. Donc, ouais, c'est une caisse en fait qu'on pose sur le plancher et dans lequel on va mettre les cadres. D'accord? Donc, il y a la caisse à acheter. Donc, la caisse, elle peut être soit en bois, soit en plastique. Ensuite, les cadres qu'on va mettre dedans. Et sur ces cadres, on va mettre de la cire. Donc, la cire aussi est à acheter. Ensuite, au-dessus, vous allez mettre un nourrisseur. Donc, qui va vous servir soit à mettre du sirop, soit à mettre du candi quand vos abeilles auront faim. Le nourrisseur, il sert aussi d'isolant en hiver. Donc, c'est intéressant d'avoir un nourrisseur en bois, moi, je trouve. Dessus, on va mettre un couvre-cadre. Et enfin, on va mettre le toit de ruche. Donc, les toits de ruche, c'est ce que vous voyez. Souvent, c'est des toits en tôle. Et parfois, il y a des ruches qui ont les formes de petits chalets là, c'est assez joli. Alors, c'est pas pratique à l'usage, c'est pas pratique, mais c'est joli. Les ruches qui ont un toit comme les toits de maison en fait en triangle là. Voilà, donc ça c'est pour la ruche. Donc, évidemment, vous allez multiplier le prix par le nombre de ruches que vous souhaitez avoir. Ensuite, eh ben, il y a l'essaim. Donc, bah, dans vos ruches, vous allez y mettre des abeilles. Donc, combien coûtent les abeilles? Donc, renseignez-vous sur le prix d'un essaim, c'est le plus simple à acheter hein, quand on débute. En principe, alors là, je vous parle d'un prix plancher. Hein. Un essaim, c'est 150 euros, mais c'est le prix plancher. Hein. Ça va souvent au-dessus. C'est souvent 170, 180 euros. Alors après, vous pouvez avoir des réductions en fonction du nombre d'essaims que vous achetez. C'est sûr, quand on achète 10, 15, 20 essaims, on les paye moins cher. C'est des prix qui sont dégressifs. Mais voilà, donc renseignez-vous. Donc ce qu'on appelle un essaim, en fait, c'est, ouais, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une demi-colonie. C'est-à-dire qu'on va vous donner ça dans des petites ruchettes, donc souvent des ruchettes de transport, donc en polystyrène ou en bois. Et où dedans, vous avez 5 ou 6 cadres. Donc vous avez des abeilles avec un petit peu de couvain, un petit peu de réserve et une reine. Donc voilà. Donc l'essaim. Ensuite, on a les housses. Donc si vous voulez récolter votre miel, donc on va mettre une housse en fait. Une housse, en termes de taille, ça fait un demi-corps de ruche. En fait, c'est un demi-corps de ruche qu'on va poser au-dessus de la ruche au moment des mielées. Et dedans, pareil, ben on va y mettre les cadres et la cire où les abeilles vont venir stocker le miel. Parce qu'il faut savoir qu'on ne récupère jamais le miel dans le corps de ruche. Le corps de ruche, il est réservé aux abeilles et le miel qu'il y a dedans, c'est uniquement pour les abeilles. Nous, on récupère le miel qu'il y a dans la housse. Alors souvent, pour pas que la reine monte dans la housse, pour pas qu'elle ponde dans la housse et pour qu'on ait que du miel, on met aussi une grille à reine. Donc il faut penser aussi au prix de la grille à reine. C'est pas très cher hein, selon ce que vous prenez. Pareil, hein, une grille à reine en plastique, les Nikko, on est à 2 euros et quelques. Et par contre, si vous prenez une grille à reine métallique, là, on peut monter dans les 9-10 euros. Voilà. Ensuite, il va falloir prendre aussi en compte le matériel d'extraction, donc pour extraire votre miel. Donc, il existe des extracteurs manuels ou des extracteurs électriques. Ça, c'est à vous de voir en fonction du nombre de ruches que vous avez et aussi en fonction de votre condition physique. Parce que mine de rien, de tourner l'extracteur, ça fait des biceps. Voilà, ensuite vous avez bah, le bac à désoperculer plus le couteau à désoperculer. Puisque quand vous allez enlever votre miel, en fait vous allez couper l'opercule et ça va vous permettre d'accéder au miel et de pouvoir l'extraire. Et vous avez aussi du coup le maturateur et le tamis et les filtres qui vont avec. Donc le maturateur, c'est là qu'on va mettre le miel à maturer. Alors, c'est pas vraiment, il mature pas vraiment en fait le miel, mais c'est là qu'on met, on va plus appeler ça un décanteur. Parce que ça sert à séparer le miel de la cire, pour faire simple. Et de le laisser reposer aussi, de faire en sorte que l'air sorte du miel. Ensuite, il faut penser à l'équipement de sécurité. Donc quand je dis l'équipement de sécurité, donc c'est la tenue. Donc soit un blouson, soit une combinaison en fonction de avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Il faut savoir que la combinaison a l'avantage de beaucoup plus protéger, d'être plus efficace contre les piqûres. Elle a l'inconvénient par contre d'être moins pratique et de tenir plus chaud. Donc ça, à vous de voir après, en fonction de ce que vous préférez. Ensuite, des gants. Donc l'idéal, pareil, c'est de travailler sans gants, mais moi je sais que par exemple je suis allergique aux abeilles, donc je mets des gants. Ensuite, l'enfumoir et le lefcad. Donc le lefcad, vous verrez que c'est un outil indispensable quand on débute, enfin pas quand on débute, en fait quand on est en apiculture. C'est vraiment l'outil, on peut tout faire avec. On lève les cadres, on gratte les ruches, on fait tout avec ça. Voilà. Ensuite, il va falloir penser au prix des traitements, donc des traitements varrois. Donc partez du principe, sur la première année, on va dire que vous faites un traitement varrois. Bien que de plus en plus, étant donné que les varrois résistent de plus en plus au traitement, on en fait couramment deux. Mais voilà, donc pensez à faire un ou deux traitements. Donc à vous renseigner combien coûtent les traitements, donc soit la pibioxale, soit l'oxybi, soit la pivar, la pitrase, etc. Il existe plein de traitements, donc je vous laisse vous renseigner là-dessus. Et dernier petit conseil concernant le prix, prévoyez un petit peu plus que ce que vous avez besoin. Je m'explique. Quand j'ai débuté l'apiculture, ma première année, j'avais deux essaims, donc j'ai acheté deux ruches du coup, pour que les deux essaims puissent se développer dedans. Ce que j'ai pas pensé au moment où j'ai acheté mon matériel, c'est que les ruches, ça essaime. Et quand une ruche essaime, du coup, en fait, c'est la colonie qui se divise en deux. Et je n'avais pas prévu d'acheter une ruche ou une ruchette supplémentaire. Donc, je me suis retrouvé avec mes deux ruches qui ont essaimé. En plus, elles ont essaimé quand? Le 1er mai, donc un jour férié. Et du coup, je n'ai pas pu récupérer les essaims. Enfin, si, j'ai récupéré un essaim sur les deux, parce que je dis, il me restait une ruchette de transport. Donc, j'ai pris cette ruchette de transport pour faire tomber l'essaim dedans. Et le deuxième, je n'ai pas pu le récupérer parce que je n'avais pas le matériel suffisant. Et quand j'ai trouvé le matériel pour, ben, il était parti. Voilà, donc prévoyez toujours, si vous avez par exemple, vous prévoyez de débuter l'apiculture avec deux ruches, et ben achetez trois ou quatre ruches au cas où. Enfin, c'est pas au cas où, c'est que dans tous les cas, si vous avez deux ruches, vous en aurez besoin au moins d'une troisième, minimum d'une troisième si vous faites un essaim artificiel. Voilà. Ensuite, on va parler des organismes à connaître. Deux organismes qui sont très intéressants en apiculture et qu'il faut absolument connaître, c'est le syndicat apicole et surtout le GDSA. Le syndicat apicole, en fait, c'est une, je crois que c'est une association, il me semble qu'ils sont classés en association, bref, et qui va vous donner plein de conseils en apiculture. En principe, il y en a un par département, et ils donnent plein de conseils en apiculture. Ils font aussi des formations. Alors, l'avantage de ces formations, c'est qu'elles sont très peu coûteuses. C'est des formations, parfois, ils en donnent des gratuites, des fois, ils donnent des formations à 10, 15, 20 ou 30 euros. Enfin, voilà, ça reste quand même des formations qui sont très peu coûteuses. Alors, beaucoup critiquent les formateurs des GDSA parce qu'ils ne sont pas professionnels. Bah oui, ils ne sont pas professionnels, c'est souvent des bénévoles, des personnes qui sont à la retraite. Donc, ils donnent déjà de leur temps. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas une formation, on n'a pas forcément un formateur excellent, mais elles ont le mérite d'exister et elles ont le mérite aussi de former le grand public quoi, pour pas cher. Donc, ça peut être intéressant, notamment quand on débute l'apiculture. Et le deuxième organisme que je voulais vous présenter, que très peu d'apiculteurs connaissent et que malheureusement en France, seulement 20% des apiculteurs y sont affiliés, c'est le GDSA. Le GDSA, c'est le groupement de défense sanitaire apicole. En fait, c'est eux qui mettent en place tout ce qui est PSE, donc les plans sanitaires d'élevage, par département. C'est-à-dire que d'un département à l'autre, des fois on va autoriser des molécules pour le traitement du varroa, des fois ils vont proscrire certaines molécules. Je pense moi, dans mon département en Isère, ils ont proscrit la pivar en 2020, il me semble que c'était en 2020. Pourquoi? Parce que les varrois étaient en train de s'habituer et ils ont remarqué une accoutumance des varrois à la pivar. Donc du coup, ils ont supprimé, enfin ils n'ont pas supprimé, mais ils ont proscrit cette molécule de manière à ce que les varrois du département restent un an sans être en contact avec cette molécule et qu'il puisse y avoir moins, enfin, une résistance moindre, on va dire. Voilà, mais c'est des organismes, alors... Très peu d'apiculteurs y sont affiliés et en plus de ça, vous verrez qu'en fonction du GDSA duquel vous dépendez, ce n'est pas forcément évident de rentrer en contact avec eux parce qu'ils font pas forcément de pub et voilà, faut connaître quoi, on va dire, malheureusement. Dernière chose avant de finir ce podcast que je voulais vous présenter, les assurances. Les assurances, elles n'ont rien d'obligatoire, mais fortement conseillé. En plus, les assurances ne sont vraiment pas chères, c'est-à-dire qu'une assurance, ça coûte en moyenne entre, selon celle que vous prenez et les garanties que vous prenez, entre 50 centimes, je crois, et 1,80 € par ruche. Donc notamment si vous débutez, vous voyez, avec deux ou trois ruches, c'est vraiment pas ça qui va vous ruiner. Mais par contre, ça peut vraiment vous aider pour deux choses. Alors déjà, si vous avez quelqu'un qui se fait piquer autour de vous, un voisin ou autre, donc l'assurance le prendra en charge, évidemment, à condition que les distances par rapport au voisinage et à la voie publique soient respectées, évidemment, et que vos ruches soient bien signalées par un panneau, attention abeilles, etc. Et aussi, malheureusement, quelque chose qui se développe de plus en plus en apiculture, où de plus en plus d'apiculteurs y sont confrontés, c'est le vandalisme. Alors, le vandalisme, elle ne rembourse pas énorme, mais elle rembourse toujours une petite partie des dommages, et c'est toujours intéressant, donc du coup, d'avoir une assurance. Voilà, en espérant que ce podcast ait répondu à vos attentes, je vous souhaite une bonne continuation, un bon courage pour vous lancer en apiculture, et puis à la prochaine!